Alors je me souviens, un matin, à ce micro d'un invité qui me disait qu'on lui avait appris la musique comme on apprend à écrire, avec un alphabet qui avait la particularité de n'avoir que 12 lettres et que dès son plus jeune âge, sur son piano en guise d'écriteau, il s'était contenté de composer des mots, des phrases, des petites histoires avec ses doigts, comme on tient un stylo. Je me souviens de cette image de l'écriture. Il parlait de son clavier comme d'une machine à écrire, de ponctuation, avec des virgules au lieu de respiration, de parenthèses, de points d'interrogation. Il insistait sur le fait d'être gaucher, sur les exercices qu'il avait dû aligner, sur son professeur qui lui avait sévèrement corrigé son doigté. Et puis surtout, il parlait d'impression, comme si sur son piano, il avait vocation à imprimer quelque chose de physique, comme on imprime une feuille de papier, sauf qu'il en sortait des sons. À un moment, il s'était mis à jouer dans ce studio et toutes ces images s'étaient confondues au point de nous donner l'impression qu'il se mettait à son bureau. J'avais pensé à cette pièce de Leroy Anderson qui s'appelle The Typewriter, où la machine à écrire est un instrument qui dialogue avec l'orchestre et ponctue chacune de ses phrases, vous savez, par une sonnette et par le raclement du retour du chariot quand on va à la ligne. Et je me posais cette question que je me pose encore aujourd'hui. Avec un piano, qu'est-ce qu'on écrit ?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Il se trouve, ça tombe bien, que mon invité d'aujourd'hui écrit avec son piano. À bientôt 32 ans, il est devenu l'un des pianistes français les plus populaires, aussi à l'aise dans l'univers de la musique classique que dans le rap. Il vient de sortir son troisième album qui s'appelle Letter, et il sera demain au Printemps de Bourges, se prépare déjà à remplir les 20 000 places de l'Accor Hotel Arena en novembre. Bonjour Sofiane Pamart.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on peut écrire avec un piano.
On peut écrire toutes ces émotions, par exemple celle dans laquelle je me retrouve ce matin. Alors, c'est une heure vraiment pour moi qui est l'heure de tomber du lit. Alors, donc je commence ma journée avec quelque chose d'assez doux.
Vous vous réveillez comme ça, avec une musique dans la tête à chaque fois.
Avec une musique douce le matin, parce que j'ai besoin de douceur pour commencer ma journée.
Sofiane Pamart, parvenir à une liberté absolue dans l'expression de vos sentiments, de vos émotions, c'est passé par quoi ? C'est passé par quel travail ?
C'est passé par toute une vie d'entraînement où j'alterne entre mes sorties dehors et dès que je rentre à la maison, je saute sur le piano, au départ enfant sur un jouet, puis sur un piano un peu plus avec un peu plus de touches, et donc c'est un entraînement aussi tous les matins où ma mère me réveille un peu plus tôt pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir vraiment ne pas lâcher et puis avoir une technique qui se forme année après année.
Voilà, à quel moment c'est devenu naturel pour vous ?
Alors en fait, ça a toujours été naturel parce que ça a commencé en étant naturel, puis ça l'est devenu un peu moins parce que le travail fait que après au bout d'un moment on finit par se perdre, on finit par s'oublier un petit peu, ce qui me donnait envie quand j'étais vraiment enfant, pour après renouer avec l'union des deux, l'union de ce qu'on a appris par le travail et de ce qu'on a instinctivement qu'on trouve dès l'enfance.
Parce qu'il y a eu cette formation classique quand même très importante, elle a été couronnée par une médaille d'or décernée par le Conservatoire de Lille. Vous avez étudié quand même pendant 16 ans. Quel morceau est-ce que vous aviez présenté pour ce concours ? Vous vous en souvenez, si on revient aux origines, quelles notes vous reviennent au bout des doigts ?
Alors tout enfant, je me souviens que je jouais des musiques de films, donc une des premières musiques que je savais jouer et que j'ai présentée naïvement, donc à mes 6-7 ans en rentrant au Conservatoire de Lille, c'était Les Jeux Interdits.
Vous voulez dire qu'on ne vous avait pas imposé un morceau classique ?
Non, c'est après qu'on m'a imposé des morceaux classiques. C'était après pour présenter, mais tout au début, on arrive dans la salle du professeur et on joue tout ce qu'on veut en fait. Tout au début, c'est est-ce que cet enfant a des prédispositions pour cet instrument ou bien est-ce que cet enfant a un intérêt pour cet instrument ? Et d'ailleurs, on y va quand même pour apprendre. Le but, c'est de pas savoir déjà jouer.
Billy Elliot, quoi. Billy Elliot qui fait des mouvements un peu partout.
Voilà, peu importe, exactement. Mais c'est beau. D'ailleurs, c'est la scène du film, j'adore.
Alors, c'est intéressant en l'occurrence dans votre parcours, dans votre itinéraire, parce que vous n'avez pas fait le choix, Sofiane Pamart, d'une carrière exclusivement tournée vers l'interprétation d'un répertoire classique. Pourquoi ça vous convenait pas vraiment, ça ?
Alors, c'était pas la musique que j'écoutais, c'est une musique que j'ai appris à aimer en la travaillant de l'intérieur, des partitions, et après j'en suis tombé complètement amoureux, mais au départ c'était pas du tout la musique qui m'attirait. Donc moi, dès que je sortais du conservatoire, je jouais complètement autre chose. Je jouais les musiques de dessins animés, les musiques de films, les musiques de rap que j'écoutais, et c'est après que, en fait, j'ai réussi à faire l'union des deux.
Mais alors justement, qu'est-ce qui s'est passé avec le rap? Qu'est-ce qui vous a tout de suite intéressé dans cette musique? Vous qui très rapidement avez collaboré avec des artistes tels que Val, SCH, qui sont déjà venus à ce micro, ou encore Kobalade, qu'est-ce qu'il y avait dans le rap pour le pianiste que vous étiez?
D'abord, c'est l'attitude, le style de vie, tout ce qu'il y a autour. J'ai un oncle qui est un oncle très marginal, que Tonton Poison, grosse dédicace à lui d'ailleurs. Si
c'est l'un de mes surnoms, Tonton Poison.
Bah voilà, cher Augustin, Augustin Poison. Et bien voilà, Tonton Poison m'emmenait partout avec lui dans des soirées complètement folles qui n'étaient pas normalement des soirées pour un enfant de 8-9 ans. Il était trop fier parce que je savais déjà jouer pas mal au piano, je me débrouillais bien. Et en fait, cet univers m'a tout de suite hyper valorisé parce que chaque chose que je savais faire était provoquer l'admiration chez tous ceux qui m'entouraient. Et donc j'avais l'impression d'être admis dans un cercle, dans une communauté par mon piano. Et c'est ce qui m'a le plus mis en valeur avant d'être mis en valeur au conservatoire.
Mais quelle est la place du piano dans le rap, justement?
Alors, le piano, bah, par exemple, dans des musiques comme... D'abord, il a été samplé, comme... Donc moi, en fait, à ce moment-là, j'entendais pas Chopin, j'entendais NTM, Joe Starr, qui allait poser son texte That's My People dessus. Et donc, et ça, c'était valable pour tout, en fait. C'est que les rappeurs prenaient, piquaient des samples d'autres musiques qui tordaient au point de les réapproprier, de faire complètement une autre musique.
Est-ce que votre découverte du rap, elle s'est faite aussi à travers cet instrument, en fait, pour le pianiste, le jeune pianiste que vous étiez?
Oui, c'est à travers, en fait... C'est que je reprenais les morceaux de rap que j'écoutais au piano. Donc mon piano a toujours été mon vecteur. C'est que je traduisais tout ce que j'entendais, tout ce que je faisais, je le transposais au piano.
Et qu'est-ce que le rap vous a apporté en tant que pianiste? Comme la musique classique a pu vous apporter des choses, je suppose.
De l'instinct, de l'audace et oser les choses, faire les choses en dehors des cases. Et en fait, je pense que j'ai eu la chance de trouver un équilibre entre quelque chose de très instinctif, sans code, et quelque chose de très normé, très codé, mais aussi très savant et très riche.
Vous diriez que ces deux univers musicaux, Sofiane Pamart, ils sont complémentaires, en fait?
Bah oui, très, 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 très complémentaires. C'est comme, en fait, ces deux univers musicaux, c'est comme mes deux parents. J'ai une mère très dans le feu et un père beaucoup plus dans la terre, beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir ressenti la même chose entre ces deux univers-là. Et moi, j'adore les extrêmes. Je suis attiré toujours par ce qui est excessif, ce qui crée du contraste, parce que, en fait, ce n'est pas lisse.
Et puis, ce sont des histoires aussi. En quoi composer une chanson, pour vous, c'est toujours pour raconter une histoire, en fait, tout simplement?
Oui, parce que je trouve que j'ai du mal à faire de la musique pour la musique, mais j'aime faire de la musique qui serve... le récit d'une vie, qui accompagne la bande, comme la bande originale d'une vie. Et j'ai du mal, en fait, à juste penser la musique pour la musique. J'aime que la musique raconte des événements que je vis ou des événements que je vois.
Bon, alors on va raconter votre vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sofiane Pamart, j'aimerais bien que vous nous racontiez une histoire, celle des origines, justement. Ça s'appelle From, et c'est sur votre dernier disque, Letter. Thank you. Sofiane Pamart en direct du studio 621 ce matin dans Boomerang. C'est très émouvant parce que dans ce titre que vous venez de jouer, en fait, vous vous posez une question qui est celle de l'endroit d'où vous venez. Alors on va essayer de trouver certains éléments de réponse. D'où avez-vous le sentiment de venir ?
J'ai le sentiment d'abord d'être une âme qui est insufflée dans mon corps avec un certain caractère que je dois trouver et que tout mon parcours, c'est d'essayer de la comprendre. Et forcément, cette âme, en fait, c'est un mélange entre un tempérament et aussi une histoire et des choses qui nous ont précédé. Et je pense qu'en fonction de ce qui a été fait dans les générations qui étaient là avant nous, eh bien, on est une personne différente.
Vous pensez à quoi ?
Et donc là, je pense évidemment toujours quand je joue, je pense à mon grand-père mineur qui est venu en France pour... qui est un enfant du travail, en fait, qui a commencé à travailler très tôt et qui a vu l'opportunité de venir en France pour en travaillant dans les mines du nord de la France pour lancer la famille. Et donc lui, ses mains étaient dans le charbon, les miennes aujourd'hui sont sur le piano, et donc forcément moi j'ai l'impression que voilà, c'est, il fait chaud, il fait bon, on passe un très bon moment, Augustin. Et puis en fait lui, c'était un métier qui forcément qui n'est pas un métier de choix, et en fait je culpabilise un peu de faire ça, et ma seule manière d'être en paix en fait avec ça, c'est de justement d'essayer de faire les choses les plus grandes possibles pour honorer en fait les efforts qu'il a fait. Et donc From est un thème, là celui que je viens de jouer, qui est assez mystérieux, où j'essaie de me poser les questions de mon identité, mais aussi de cette quête qui donne du sens aux efforts qui ont été faits avant moi.
Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous prédisposait à jouer de la musique dans cette famille?
Alors c'est dans ma famille, ma grand-mère chantait beaucoup, mes parents écoutent beaucoup de musique, mon père est un grand mélomane, il adore Brassens, il adore Barbara, il adore Brel, il adore plein de grands artistes en fait que j'ai écoutés dès mon enfance. Mais je pense que au-delà de tout ça, au-delà de la musique, c'est juste que c'est une famille très vivante. C'est une famille qui aime passionnément, et donc où il se passe toujours des choses, des dramas, des réconciliations, de l'amour en fait.
Il y a bien un jour, Sofiane Pamart, où vos parents vous ont inscrit au conservatoire. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah oui, bien sûr. Mais en fait, c'est parce que je jouais sur un petit jouet que m'a offert ma mère, et après elle s'est rendue compte que ça me plaisait vraiment, et c'est comme ça qu'elle s'est dit bon, il faut faire quelque chose. En plus de ça, elle était admirative de cet environnement du conservatoire. Elle veut le meilleur pour nous. Elle avait vu un documentaire où le piano était le roi des instruments, donc elle s'est dit bah ça c'est parfait pour mon enfant, et donc elle m'a mis là-bas. Et après, mon frère et ma sœur ont suivi. On s'est tous les trois retrouvés à être une fratrie enfants de non-musiciens, mais qui est devenue une fratrie musicienne.
Et puis il y a le parrain aussi, quand même.
Ah oui, bien sûr, le premier thème que j'ai joué.
Qu'est-ce que vous voyez là ? Quoi vous pensez ?
Je revois les scènes du film et de ce moment où en fait ce thème de Nino Rota a accroché mon oreille et que j'arrivais à reproduire, donc d'abord avec des petites notes. Hein. C'était ça d'abord. Après, on rajoute les accords. Et en fait, ce parcours m'a appris à composer aussi à mon tour, parce que je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, on commence d'une mélodie, ensuite on trouve la combinaison parfaite avec des accords qui soutiennent cette mélodie, et après on improvise, on fait des variations et on revient sur cette mélodie. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai appris à construire mes premiers morceaux.
Donc en fait, vous voyez les images du film, Sofiane Pamart, mais aussi le petit garçon que vous étiez en train d'apprendre à jouer.
Oui, parce que c'était devenu mon obsession, c'était devenu mon jeu vidéo en fait, mon piano.
Qu'est-ce que ça veut dire, avoir l'oreille absolue ? Parce que c'est une expression qui est parfois remise en question.
Oui, une oreille absolue, c'est une oreille qui reconnaît le bruit, tous les bruits, pour pouvoir les transposer en tant que note. Et donc ça a des grands avantages pour apprendre, mais c'est aussi, ça a des limites, parce qu'il faut aussi savoir prendre des libertés par rapport à cette oreille et par rapport à ce qu'on entend, et pas juste reproduire.
Mais ça veut dire que vous, concrètement, à l'écoute de n'importe quelle chanson, vous êtes capable de reconnaître les notes et de les reproduire au piano, tout simplement?
Oui, c'est ça.
C'est assez tentant, Sofiane.
Je vous vois venir.
Ah ben quand même, on va faire un petit jeu. Je vous passe l'extrait d'une chanson et on va voir si vous arrivez à le reproduire. On n'a rien préparé, est-ce que vous êtes prêts ?
Ok, ouais.
On y va.
Ah ouais. Ouais. Ah bah forcément, bah cette musique je la connais, donc j'entends les notes suivantes. Ça commence comme ça et après on s'évade un peu. Mais moi tout de suite quand je joue, j'ai envie de le faire à ma manière.
Qu'est-ce que vous rajoutez là?
Quand je compose, en fait, j'improvise toujours. Et donc là, je commençais à m'éloigner. Il me faudra un peu plus de temps pour m'éloigner vraiment et puis en faire un morceau complètement différent.
Ah bah on peut pas. Mais... on peut pas parce qu'on est au milieu d'un jeu, Sofiane et oui, Pamard. Oui, oui. Et on va passer le deuxième extrait.
Ah.
Dès la première note. Hein.
Ok, oui, bien sûr, Aïcha. Hein.
Comme si
je n'existais. Ah oui. En fait, là, j'ai un autre souvenir qui me vient, c'est que j'ai une tante qui s'appelle Aïcha et que enfant, quand je jouais Aïcha, elle pleurait instantanément. Et c'est parce que et donc je savais que j'avais mon morceau pour cette tante, qui était voilà.
Attendez, là, c'est moi qui vais vous faire pleurer avec le troisième extrait.
J'adore cette dame.
Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve. Je rêve.
Ok, oui, d'accord. Dites-le-moi ça, c'est, ouais, c'est magnifique.
Murmurez-le-moi simplement, je vous écouterai bien mieux.
Barbara, quelle dame. C'est une dame qui m'inspire tellement parce qu'en fait, dans sa manière de parler, dans sa manière de chanter. Mais là, en fait, ce qui est fou, c'est que les accords sont très, très enjoués, mais qu'elle rajoute de la profondeur, elle rajoute du vertige à cette chanson. Alors qu'au piano, ça donnerait... Et après, je pense qu'elle fait... Ah, plus ou moins, c'est ça. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que là, on est sur un morceau très, très, très enjoué, très majeur. Et en fait, elle rajoute, elle vole comme un oiseau. On dirait un oiseau, même physiquement, elle ressemble à un oiseau.
C'est vrai qu'on dirait un oiseau.
Et en fait, elle chante comme un oiseau.
Toutes ces musiques que j'ai choisies sont des musiques, en fait, de votre enfance. Mm-hmm. Sont les musiques de vos parents, Sofiane Pamard.
Oui, 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 c'est ça. Et en fait, ça traduit bien l'environnement où, en fait, on passait facilement d'une musique à l'autre. Après, on avait aussi des grands tubes de la musique classique qui passaient parce que, forcément, en étant inscrit, mes parents avaient acheté des compiles où, en fait, on avait, il fallait qu'on se fasse notre culture classique et donc ça passait par plein de morceaux comme la danse du sabre, comme des tubes quoi, le vol du bourdon, tous ces morceaux-là.
En fait, c'est devenu une enfance dédiée au piano, dédiée à la musique.
Ah oui, alors ça c'est sûr qu'une famille qui décide de mettre ses enfants au piano, elle réorganise toute son organisation, ça c'est sûr. Alors donc on part de l'école, on va au conservatoire, il y a les solfèges plusieurs fois dans la semaine, il y a la chorale, il y a tout cet apprentissage.
Ça a été dur?
Ça a été... fallait pas lâcher quoi. Ma mère, elle me faisait croire qu'elle était toujours derrière la porte quand j'étais de passage et que je voulais absolument fuir parce qu'en fait, des fois, ça devenait un peu trop routinier. Et en fait, ça a été toujours la seule autorité que je craignais. Donc, elle arrivait à me tenir. Mais après, une fois que je me tenais, que je me lançais au jeu, eh bien après, j'oubliais que c'était difficile et j'étais surtout très content de passer des étapes et d'accomplir de grandes choses.
Parce qu'elle avait la certitude qu'un jour, vous la remercierez.
Ah ouais, bah là, je passe mon temps à ça. Je passe mon temps à parler de ma mère. Donc, maman, qui m'écoute maintenant, je le sais. Merci beaucoup.
Quand on consacre, Sofiane Pamard, autant de temps à un instrument, ce qui a été votre cas, dans quelle mesure est-ce qu'il arrive qu'on soit rattrapé par un sentiment de solitude?
Ah. Je vous vois venir. On joue solitude de mon nouvel
c'est
album.
C'est parce que je prépare des transitions très belles. Et là, bah oui, on va jouer Solitude, qui est un extrait de votre nouvel album Letter. Et on en parle après.
Thank you.
Vous savez, c'est impressionnant quand même, dans le studio 621 de la Maison de la Radio, dans le contre-jour de ce studio, il est impressionnant, quelque part entre le héros du film futuriste, le chef de gang et une sorte de Wolfgang 4.0, le cheveu versatile, les doigts ornés hein, de multiples bagues, et la lunette Lennon fumée tout en bleu, électrique. Ce matin, le pianiste et compositeur Sofiane Pamart, invité de Boomerang, et j'aimerais qu'on revienne quand même sur ce morceau que vous venez de nous jouer qui s'appelle Solitude, dans votre dernier disque. C'est un morceau qui sonne comme une valse, en fait. Pourquoi la valse ?
Parce que je trouve que c'est la meilleure manière de raconter mon histoire avec la solitude, où en fait à la fois je la fuis, à la fois elle m'attire, et à la fois elle me permet de créer mes meilleurs morceaux, et en même temps je la trouve insupportable. Et la solitude d'un pianiste, c'est vraiment un vrai sujet, parce qu'on est face à un piano qui nous permet de voir le monde de toutes les couleurs, mais en même temps c'est un piano qui nous renvoie toujours à ses limites, à mes limites et à ce que je n'arrive pas forcément à faire.
Parce que qu'est-ce qui caractérise la valse, en fait, musicalement, Sofiane?
Eh bien c'est que c'est à trois temps. 1, 2, 3, 1, 2, 1... D'ailleurs, la scène que je vois, moi qui aime beaucoup les scènes de films, c'est Al Pacino aveugle dans Le Temps d'un week-end qui est en train de danser dans un tango. Donc c'est pas une valse, mais je trouve qu'il représente très très bien ce que ça signifie que de danser avec la solitude.
Moi je pense à Chopin.
Ah oui.
Quand j'écoute ça. Et pourquoi ?
Bah d'ailleurs, Chopin, si on peut penser à une autre valse de 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 1. Bon, ça fait longtemps que j'ai plus joué du Chopin, ça s'entend un petit peu, mais...
Ouais, enfin, moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça quand même, hein, Sofiane, on va pas se mentir, là. Parce que ça fait peut-être longtemps, mais ça marche, il n'y a pas de problème. Vous dites que c'est l'un de vos compositeurs préférés.
Oui, oui, parce qu'en fait, Chopin a l'art de conduire des mélodies populaires, mais de manière très élégante, et qui deviennent, en fait, des musiques très, très, très riches, mais où, en fait... La complexité vient au service de la mélodie juste, et
c'est romantique.
Oui, voilà, bien sûr. Bah, Chopin, c'est un des immenses romantiques. Ouais.
Dans quelle mesure diriez-vous qu'il est présent dans votre musique tout le temps, à chaque morceau ?
Ah, c'est avec Chopin que j'ai appris à phraser, à conduire mes mélodies.
Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire à essayer de chanter comme si on revient sur Solitude. Donc là, on vient de faire une longue phrase musicale. C'est comme si, en fait, pendant tout ça, il fallait juste un souffle pour pouvoir chanter cette première phrase. Après, on respire, donc c'est ça le phrasé, on respire, on passe à la phrase suivante.
Et vous écrivez, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on disait au début de l'émission. Vous êtes en train d'écrire avec des respirations, des virgules, tout simplement. Quand vous étiez encore étudiant au conservatoire, Sofiane Pamart, quelle image est-ce que vous faisiez de ce que c'était qu'un compositeur de musique classique?
Eh bien, j'ai imaginé des personnages en fonction des images là qu'on voit sur Google. Donc par exemple Brahms, j'imagine un vieux personnage mais qui a beaucoup de vécu, et en fait ça va de pair aussi avec ces morceaux, et j'étais confronté tout le temps au fait que parfois il y a des morceaux qui me demandaient trop de vécu. Bah, Brahms justement, j'avais l'impression que j'étais beaucoup trop jeune pour réussir à jouer correctement du Brahms, il fallait que j'expérimente plus de choses.
Ou mettre une chemise à jabot.
Ouais, tout ça, tout ou une perruque, et d'ailleurs, et voilà, c'est ce qui viendra plus tard, à me colorant les cheveux.
Est-ce que vous pouviez imaginer qu'un jour vous deviendriez compositeur ?
J'ai toujours composé, c'est juste que en fait j'ai perdu un peu l'habitude de composer entre mes 11 et mes 15-16 ans, parce que en fait le travail que j'avais au conservatoire devenait tellement immense qu'après j'étais juste face aux obstacles techniques et aux épreuves qui m'étaient données par les œuvres, et je voulais juste remporter ces épreuves avant de revenir sur la composition. Mais enfin, je faisais que composer, j'inventais. Quand on me demandait de jouer, j'improvisais, je faisais croire que c'était du Beethoven, du Mozart, mais en fait j'improvisais des...
Mais vous êtes un gangster, hein. Vous faisiez croire que c'était du Beethoven.
Oui, parce qu'en fait ça me donnait une légitimité, et puis en plus, vu que c'est pas bien, mais ma famille n'est pas musicienne, je pouvais raconter tout ce que je voulais, et c'est ce qui était génial.
Vous voulez dire qu'ils vous croyaient à chaque fois?
Oui, ils me croyaient à chaque fois, et donc du coup, j'ai été rapidement...
Joue-nous cette sonate de Chopin.
Voilà, c'est ça,
pas
bien
du
sûr.
Tout, en fait, je l'ai écrit dans ma salle de bain. C'est ça. Oh là 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 là. Écrire vos propres morceaux, en fait, c'était quoi? C'était un besoin, c'était une urgence, c'était une pulsion chez vous. Et ça l'est toujours.
Oui, et ça l'est toujours. En fait, c'est que j'ai voulu gagner la liberté d'écrire mes propres morceaux. Donc, c'est ce qui me motivait dans tout mon apprentissage classique. C'était de me dire, un jour, j'aurai tellement intégré ces œuvres-là qu'elles feront partie de moi, je pourrai les oublier pour qu'à mon tour, je puisse raconter quelque chose et témoigner de mon époque.
Alors, le premier morceau que vous ayez composé? Très jeune, inconsciemment même, presque.
Moi, je me souviens d'un morceau, ça ne devait pas être le tout premier, mais c'est au moment où j'ai commencé à apprendre à croiser les mains. Donc en fait, je faisais ça. Ça, c'est ma main droite qui joue ça. Et après, je tournais la main gauche, je la balançais à droite. Et j'avais inventé une petite mélodie qui est en fait une mélodie qui suit les accords, mais que j'aimais jouer parce qu'en fait, à chaque fois, dès que je commençais à croiser les mains, ça provoquait quelque chose de visuel.
Et donc,
on se disait, waouh, c'est encore plus dur. Oui. Alors qu'en fait, pas forcément. Mais...
Et c'est le corps qui parle, là.
Et c'est le corps qui parle. Et c'est aussi le fait de dessiner, d'avoir l'impression de peindre au piano.
Comment vous y prenez concrètement, Sofiane Pamar? La musique, elle surgit dans votre tête et vous l'écrivez plus tard ou alors vous l'écrivez en même temps sur le piano? Comment ça se passe?
C'est un sentiment qui bouillonne, qui monte. Et en fait, partout, à chaque fois, j'aime beaucoup voyager. Je voyage énormément et je travaille beaucoup en voyageant. Et je me fais en sorte d'avoir des pianos partout où je vais pour que, au moment où l'émotion arrive, peu importe quel moment, j'arrive à la capturer. C'est ce qui s'est passé avec Love, car le deuxième album, je l'ai composé en Asie. Et donc, je me souviens que j'étais en Corée du Sud. Je venais de vivre quelque chose d'assez intense. Et j'avais un piano avec une vue sur une très belle rivière, la Han River. Et j'ai commencé à jouer ce morceau-là. Et c'est cette prise de ce moment-là que j'ai appris ensuite par cœur. Donc je mets mon dictaphone, je mets mon téléphone, je m'enregistre. Et ce que j'improvise à ce moment-là, quand j'ai une bonne prise, après j'apprends par cœur la bonne prise. Et donc c'est ce qui s'est passé avec ce morceau.
Au fond, qu'est-ce qui fait un bon morceau pour vous? Vous avez fini par le savoir?
C'est quand on arrive à exprimer le plus justement possible un sentiment. Et parfois, un sentiment, on l'exprime d'abord de manière intermédiaire, donc c'est presque bien, mais c'est pas suffisamment bien. Et en fait, il faut trouver le moment juste. Et le moment juste, c'est pas une question de complexité, de richesse d'harmonie, c'est au-delà de ça, en fait. Et d'ailleurs, ça fait écho, après, dans le cœur des gens, c'est que plus on est honnête, et plus c'est touchant.
Ça peut se jouer à un silence?
Ça peut aussi se jouer à un silence... comme celui-là.
Si on prend par exemple Mistral Gagnant de Renaud, qui est une bonne chanson, vous en conviendrez, ce morceau, qu'est-ce qu'il vous raconte à vous? Quelles émotions?
Alors déjà, je trouve que c'est un des morceaux qui a fait la prouesse de faire jeu égal entre le piano et la voix. Et où en fait, les deux ont autant une fonction de chant principal, de chant lead. Et donc, je trouve aussi que c'est une mélodie qui capture parfaitement une certaine émotion.
Laquelle?
Pour moi, c'est la nostalgie douce.
On en fait, là, la nostalgie douce ensemble?
Thank you.
cette nostalgie douce. Merci infiniment, Sofiane Pamar, au piano, qui reprend le Mistral gagnant de Renaud. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci aussi à Mathieu Bérény et Johanna Gabric à la technique et à la prise de son ce matin. C'était magnifique. Je rappelle le titre de votre album, Sofiane Letter, et puis le fait que vous serez en concert demain soir au Printemps de Bourges, puis au Francopholies, La Rochelle, et puis aux Arènes d'Arles en juin, sans oublier votre Accor Hôtel Arena le 17 novembre prochain. Qu'il de vous dire qu'on y sera.